Bonjour. Ravi d'être parmi vous ce matin pour ce beau colloque. Merci pour l'invitation. Moi, j'ai vraiment hâte de lire les résultats et les productions de l'équipe Engagir. Tout ce que j'entends depuis ce matin, j'ai malheureusement pas pu être là hier, mais me confirme que tout ça va être tout à fait passionnant. Alors, Héloïse et Catherine m'ont demandé de présenter mes recherches sur le community organizing et le pouvoir d'agir aux États-Unis afin de se demander dans quelle mesure cela pourrait nourrir le travail de politisation, conscientisation, mobilisation que veulent impulser les centres sociaux dans le cadre de leur démarche de pouvoir d'agir. Alors pour le dire d'emblée, mon propos ne sera pas de dire que tout ce qui se passe aux États-Unis est génial, loin de là, que c'est ça qu'il faut faire et qu'il faut s'en inspirer terme à terme. Le contexte est évidemment très 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 différent de la France, même si bon voilà, je pense qu'il y a quand même moyen d'en tirer quelques leçons. Il s'agira pas de tirer de faire du community organizing américain une sorte de modèle, mais de voir quel type d'enseignement on peut en tirer pour mobiliser les classes populaires ici en France. Moi, c'est en tout cas avec cette posture-là que je suis parti aux États-Unis pour mes propres recherches. Au fond, moi, je trouvais, et je mène des recherches comparatives entre les États-Unis et la France, on va le voir, et il me semblait qu'il y avait un certain nombre de difficultés en France, du fait de notre culture associative et politique notamment, pour mobiliser les habitants des quartiers populaires. Et je me suis dit, au début des années 2010, que ça pourrait être intéressant d'aller regarder comment ça se passait dans un pays où était née l'idée même de pouvoir d'agir et d'empowerment. Et donc j'en ai tiré un certain nombre d'enseignements qui irriguent mes recherches aussi ici en France aujourd'hui, que je mène notamment dans les quartiers populaires de Roubaix dans le Nord, ainsi que mes engagements plus militants au sein de l'Institut Alinsky, qui est un espace de diffusion des pratiques de community organizing en France, et aussi de l'Observatoire des libertés associatives qu'on est en train de constituer avec un certain nombre de fédérations associatives à l'échelle nationale, et qui vise à documenter les freins institutionnels, matériels, financiers, culturels, au développement du pouvoir d'agir des citoyens. Et j'en donnerai quelques éléments en conclusion tout à l'heure. C'est donc, puisqu'il est beaucoup de questions de posture depuis ce matin, depuis cette posture de chercheur engagé que j'interviens ici. Et donc je vais commencer par évoquer quelques éléments tirés de mon enquête sur le community organizing aux États-Unis. Et dans un deuxième temps, j'essaierai de voir ce qu'on peut en tirer pour la France à partir aussi d'une collaboration que j'ai pu avoir avec des centres sociaux dans le Nord autour de ces questions. Alors, qu'est-ce que le community organizing ? Pour le dire simplement, c'est à la fois un projet politique et une méthode pour y parvenir. Le projet, c'est d'accroître le pouvoir des classes populaires, de ceux qu'en général on n'entend pas, accroître donc le pouvoir d'agir des citoyens. Et la méthode, c'est ça passe par la construction d'organisations, de quartiers puissantes et autonomes, des sortes de contre-pouvoirs locaux. Peut-être des sortes de centres sociaux. On verra, j'essaierai de tisser des liens au fil de ma présentation. Donc moi, j'ai passé pas mal de temps dans la ville de Los Angeles à suivre le travail de plusieurs organisations communautaires. J'y retourne assez régulièrement. Et donc, dans une ville comme Los Angeles, de 11 millions d'habitants, on a une quinzaine d'organisations qui se réclament du community organizing et qui rassemblent à peu près 20-25 000 participants, habitants. Ce qui n'est pas énorme, mais qui, on va le voir, peut être suffisant pour obtenir un certain nombre de transformations assez substantielles des conditions de vie de la population et de produire des processus d'émancipation, de politisation assez forts des participants en chemin. Alors juste un mot, je m'étendrai pas trop là-dessus. Alors pourquoi Los Angeles ? Moi, c'est une ville qui m'intéressait parce qu'il y a une tradition de community organizing assez forte depuis une trentaine d'années. Tradition qui est notamment née des émeutes qu'a connu la ville en 1992 suite à un épisode de violence policière. Et c'est notamment autour d'une réflexion sur comment on transforme la colère en action collective que se sont structurées ces organisations-là. Et donc, ce qui me semblait aussi intéressant par rapport à un certain nombre de choses qui se passent dans les quartiers en France. Donc moi, j'ai principalement travaillé sur deux organisations qui représentent un peu deux modèles de community organizing, mais je ne rentrerai pas dans le détail ici. Dans tous les cas, elles touchent majoritairement des membres très précarisés de ces quartiers. 50% de leurs membres sont des gens qui vivent avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté, et 90% à peu près de leurs membres sont des minorités ethno-raciales, des Noirs et des Latinos, qui constituent la majorité des habitants de ces quartiers. Et donc, comme je vous l'ai dit, et j'essaierai d'en donner des illustrations un peu concrètes, moi, j'arrivais de Roubaix où le pouvoir d'agir n'est pas toujours complètement à sa panacée sur le terrain, un petit peu déprimé. Et je suis arrivé sur le terrain aux États-Unis et je voyais des trucs, j'étais là, quand même, il se passe des trucs, ça a de la gueule. Et donc, l'énigme, notamment dans mon livre, c'est d'essayer de comprendre comment ils arrivent à toucher des gens qu'on a du mal à toucher, à mobiliser en France. Comment ils arrivent à produire des processus de politisation, entendu au sens qui était évoqué tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce que ça produit sur ces quartiers, sur ces villes, en termes de transformation concrète des conditions de vie des classes populaires. Alors pour avancer, donc le community organizing s'appuie sur trois piliers principaux pour construire ces organisations qui permettent de produire du pouvoir d'agir et du changement social. Trois piliers que sont la mobilisation, la formation et la victoire. Mobilisation. C'est le temps de travail des salariés, on va le voir, ces organisations qui sont très professionnalisées et fortement consacrées à mobiliser les habitants, à aller les chercher où ils se trouvent, chez eux, dans les églises, dans les écoles, etc. Une phrase constamment répétée par les salariés, les militants sur le terrain, c'est « nous, on n'a pas d'argent, mais on a la force du nombre ». Et donc, tout l'enjeu d'aller mobiliser en masse les habitants de ces quartiers pour pouvoir produire du changement social derrière. Ce qui passe par un travail de terrain donc très, très important, du porte-à-porte, des réunions d'appartements, des réunions avec des collectifs intermédiaires dans le quartier que j'ai évoqué, clubs de sport, institutions religieuses, des centres sociaux aussi éventuellement. Voilà, mais donc, en termes de culture associative, c'est quand même un élément important et qui contraste avec ce que j'ai pu voir dans les centres sociaux, par exemple dans le Nord, c'est qu'une bonne partie du temps des salariés est consacrée sur le terrain à aller discuter et mobiliser les gens. Deuxième aspect, et c'est peut-être là-dessus que j'insisterai le plus tout à l'heure, c'est on cherche à faire sortir les gens de chez eux, les mobiliser, mais on cherche aussi à les former, à faire un travail d'éducation populaire avec la population, avec cette idée qu'il ne s'agit pas simplement de faire participer les gens, mais qu'ils mènent véritablement la danse, avec cette idée qu'un changement qui serait fait sans les premiers concernés à leur place ne serait pas véritablement opérant. Et donc, pour que les habitants mènent véritablement la danse, il faut conduire des formations à la prise de parole en public, sur aussi l'organisation institutionnelle, parfois des villes aux États-Unis, pour essayer de comprendre pourquoi on vit ce qu'on vit. Je vous en donnerai des exemples un peu tout à l'heure, avec l'enjeu aussi de donner du sens aux problèmes qui sont vécus au quotidien par les habitants, donc ce que les organisateurs communautaires appellent l'idée de verticaliser les colères. On part de ce qu'on recueille sur le terrain, mais on n'en reste pas forcément là. J'essaierai de vous montrer comment ils s'y prennent, pour montrer que les problèmes ne sont pas forcément liés à ces voisins noirs au-dessus qui font trop de bruit, ou aux latinos qui viennent nous voler notre travail en traversant la frontière depuis le Mexique, mais que les problèmes pour accéder à un emploi ou pour bien vivre dans son logement social peuvent être liés à la structuration discriminatoire du marché du travail ou à la construction de logements sociaux de mauvaise qualité, et donc il faut aller regarder un peu la structuration des politiques publiques et les rapports de force qui les structurent pour éventuellement véritablement résoudre les problèmes des gens, qu'ils soient de logement, de travail, etc. Mobiliser, former, gagner. Voilà. L'idée, c'est quand même qu'il faut des victoires ici et maintenant, et à cette idée que les gens n'ont pas le temps d'attendre le grand soir. Et en fait, le community organizing s'est construit aux États-Unis en dialogue à la fois avec une certaine tradition du travail social là-bas et aussi avec les milieux militants, les mouvements sociaux, etc. Et c'est aussi un peu contre des mouvements sociaux qui voulaient et peut-être faire la révolution et attendaient des grandes victoires à très long terme. Ils disent, vous êtes sympas, mais les gens, faut qu'ils mangent, quoi. Et il faut qu'ils se logent, etc. Et puis c'est aussi ça qui va permettre de briser la résignation. Souvent, si les gens ne s'engagent pas, ne participent pas, etc., c'est parce qu'ils disent « ça ne sert à rien ». Qu'est-ce que moi, demain, ça va m'apporter? En quoi je vais pouvoir donner à bouffer à mes gamins en allant passer des soirées dans vos réunions là? Et donc, la réponse à ça, c'est il faut des victoires, ici et maintenant. Et c'est ça qui va briser la résignation et qui va nourrir, qui va être le moteur de l'engagement. Alors, ce qui n'empêche pas qu'ils veulent quand même s'attaquer à des grosses questions. Voilà, les organisations sur lesquelles je travaille s'intéressaient, une des grosses questions sur laquelle ils travaillent, par exemple, c'est l'incarcération de masse des minorités ethno-raciales aux États-Unis. La prison est un gros problème dans les quartiers en Californie, aux États-Unis, au-delà de ça. Le truc, c'est que demain, on ne va pas remettre en cause des décennies en fait, de construction, de prison, etc. Donc, on va essayer de le faire en découpant ce gros problème en petit problème pour mettre en place des campagnes pour obtenir des victoires ici et maintenant, puis pour avancer de façon incrémentale vers du changement. Très concrètement, ça peut être une campagne pour s'attaquer aux pratiques disciplinaires dans les écoles, qui se traduisent, qui sont très dures, inspirées par la philosophie de la tolérance zéro, qui se traduisent par des renvois de lycéens qui se font renvoyer pour des petites conneries au lycée, mais qui du coup, ils ont mené des études et ils montrent que souvent ça se traduit par le début d'une trajectoire délinquante. Début d'une trajectoire délinquante qui peut aussi conduire à nourrir ce truc d'incarcération. Et donc on va mener une campagne pour travailler sur peut-être avoir une autre philosophie de la sanction dans les écoles pour éviter de venir nourrir le système carcéral. Donc là c'est une des campagnes que j'ai pu suivre à une plus grande échelle. Ils ont également tout un travail sur les formulaires d'embauche dans les institutions publiques. Ils s'étaient rendu compte qu'un des trucs, par exemple, qui était tout à fait problématique dans la réinsertion des anciens détenus, c'était que quand on postulait à un emploi en Californie, il fallait indiquer si on avait fait de la prison par le passé. Le problème, c'est que si on met sur son formulaire d'embauche « oui, j'ai fait de la prison », l'employeur a plus hyper envie de vous embaucher, si bien que les anciens détenus qui avaient purgé leur peine, etc., étaient quasiment inemployables, ce qui, du coup, pouvait les reconduire eux-mêmes à retomber dans une trajectoire délinquante, etc. Donc toute une campagne a été menée, alors hyper concret, à supprimer cette case du formulaire d'embauche. Bon. Ça peut paraître tout à fait anecdotique, mais ça a eu des effets tout à fait concrets, en fait, en termes de retour à l'emploi des anciens détenus. Bon, pour donner des exemples un peu de comment on fait pour s'attaquer à des gros problèmes en les découpant en petits problèmes très, très concrets. Alors vous me direz, mais quel rapport avec les centres sociaux? On est quand même très loin de votre, peut-être de ce que font les centres sociaux, qui sont d'abord là à organiser des activités pour améliorer le quotidien des habitants via des cours d'alphabétisation, de soutien scolaire, des activités culturelles, sportives, etc. Je crois néanmoins qu'il y a quand même dans l'organisation, dans ce que fait au fond le community organizing et les centres sociaux, un certain nombre de points communs. Il y en a au moins trois, en fait. J'en mentionnerai deux d'abord, puis je verrai sur le troisième tout à l'heure. Un premier point commun, c'est que le community organizing, comme les centres sociaux, c'est des espaces hybrides. C'est à la fois des espaces où on fait des activités, du service, on peut dire, et où on fait aussi autre chose. On va organiser des débats, et puis aussi on va le voir, des campagnes pour faire des choses. Il y a des centres sociaux qui font des campagnes pour résoudre les problèmes des gens. Alors l'équilibre entre activité, service et campagne n'est pas forcément le même entre centres sociaux et community organizing, mais il y a quand même me semble-t-il, quelque chose d'assez proche, et ce qui rend ces organisations intéressantes, à mon sens, où c'est pas des organisations où on y vient pour faire du politique. C'est des organisations où on vient pour éventuellement rendre le quotidien moins dur, se former, etc. Et où on va peut-être se politiser chemin faisant. Des organisations hybrides, et deuxième élément qui est quand même important, c'est que c'est des organisations qui sont fortement professionnalisées. Aussi bien donc les centres sociaux que le community organizing, je l'ai dit. Et que cette professionnalisation a des incidences importantes sur les objectifs partagé dans les deux cas, de développement du pouvoir d'agir. Et c'est sur cette tension entre salariés et usagers dans les pratiques de développement de pouvoir d'agir que je voudrais me concentrer à présent. Il y a un troisième point commun, à mon sens, mais j'y reviendrai peut-être un peu plus tard à la fin de ma présentation, c'est ce qu'on peut appeler une conception relationnelle du pouvoir. Il y a un truc qui est très fort, en fait, sur lequel insiste les organisations communautaires sur lesquelles j'ai travaillé aux États-Unis. Ils disent, la force de ceux qui n'ont rien, c'est le nombre. C'est pas le nombre tout seul, c'est aussi l'ensemble des relations sociales qu'on va réussir à construire entre les gens qu'on a réussi à mobiliser. Et donc c'est ces relations-là qui créent un levier potentiel de changement. Et je crois que les centres sociaux sont porteurs ici aussi de ces ressources relationnelles-là qui sont des leviers potentiels de changement. Alors j'en reviens aux États-Unis, et je voudrais me concentrer sur une des formes que prend le community organizing, que sont les organisations de jeunesse, ce qu'on appelle là-bas le youth organizing, qui est une des déclinaisons en fait du community organizing, et donc qui sont des espaces d'encadrement social de la jeunesse, et notamment des lycéens. Très concrètement, c'est quoi? Alors là, on voit bien l'hybridité. C'est des espaces d'activités périscolaires et principalement d'aide aux devoirs à la sortie du lycée, parce que l'État n'assure plus ces services-là, et donc les assos sont venus compenser le retrait de l'État de ces activités. Et donc dans ces espaces de youth organizing, on fait ces devoirs, mais on ne fait pas que ça. C'est ça que je vais essayer de vous raconter. On fait aussi tout un travail d'éducation populaire très politique, et on mène aussi des campagnes pour améliorer ici et maintenant, les conditions d'éducation des jeunes, puisque l'objectif n'est pas seulement de permettre à ces jeunes d'avoir de meilleures notes à l'école, même si ça peut être important, d'accéder à de bonnes universités en travaillant avec eux à leur orientation. Mais l'objectif, c'est de s'attaquer aux origines structurelles, et donc bien souvent aux politiques publiques, qui sont à l'origine de l'échec scolaire massif dans les quartiers, de la sous-dotation des écoles des quartiers populaires, ou aux formes de discrimination qui peuvent toucher certains élèves, et donc ce qui peut supposer d'aller au-delà donc, des activités périscolaires. Alors voilà, donc moi j'ai passé pas mal de temps avec ces jeunes, etc. Et voilà, j'ai été quand même assez bluffé. J'ai fait beaucoup d'entretiens avec des adolescents qui avaient 16, 17, 18 ans et qui étaient tous dans des situations quand même famille monoparentale quasi exclusive, toxicomanie familiale, beaucoup de taux d'incarcération dans les familles. Bon, je vais pas vous faire pleurer dans les chaumières, mais c'est quand même des situations sociales très difficiles et qui néanmoins par l'engagement au sein de ces espaces-là avaient acquis au bout de quelques années un niveau de conscience sociale et politique hallucinant. Et donc ça crée quand même quelque chose en termes de construction de la confiance en soi et de conscience sociale et politique, moi qui m'a pas mal bluffé. Et donc c'est un peu qu'est-ce qui rend ce genre de choses possible que j'ai essayé de creuser par là-dessus. Alors pour en donner un petit exemple, alors c'est une situation que je cite souvent, ceux qui me connaissent du coup vont être un peu déçus, mais c'est donc un jeune que j'ai rencontré plutôt sur la fin de mon terrain en fait, un jeune latino qui s'appelle Juan et qui lui en fait, au bout de simplement quelques mois d'investissement très intensif dans cette organisation de jeunesse, dit quand même que ça a produit sur lui des choses assez significatives. Donc je lis un extrait de l'entretien que j'ai conduit avec lui, puis qui m'a permis d'ailleurs de tirer des fils par rapport à ce qui a été dit ce matin. Donc il dit la chose suivante: ma participation à Community Coalition, donc qui est une de ces organisations, c'est comme un cours que je suivrais. C'est un peu comme si je lisais un livre, mais que je faisais partie de l'histoire, de l'expérience qui est racontée. Quand j'ai commencé à participer, je me suis dit waouh, c'est comme ça que ça marche. J'ai découvert comment le pouvoir fonctionne, comment la politique marche, comment ils font pour nous oppresser. Grâce à ces expériences, j'ai rencontré plein de gens. Quand ils partagent leurs histoires, leurs expériences, je les compare aux miennes et je me dis qu'on n'est pas si différents. Et maintenant, quand je marche dans la rue, j'ai plus confiance en moi. Ce qui s'est passé à Community Coalition, c'est ajouté à mes expériences précédentes et je me sens enrichi, éclairé. Maintenant, je suis les informations, la politique, je m'intéresse plus. Je peux vraiment voir le changement avant. Si tu peux contrôler ton niveau d'ignorance et devenir conscient, après, tu peux contrôler le monde qui t'entoure. Alors, ce qui est intéressant, on semble dire, et c'est quelque chose qui revient dans tout l'entretien qui a duré plus de 2 heures, c'est qu'il y a clairement en fait des éléments de montée en généralité et de conflictualisation, pour reprendre les catégories qui étaient utilisées et évoquées ce matin par Héloïse, et de construction d'un nous et d'un eux. Alors le contour du nous n'est pas toujours hyper clair, mais c'est quand même nous les habitants des quartiers, nous les noirs et les latinos qui nous ont discriminés, souvent ça se recoupe, et eux en face, c'est quand même souvent les riches qui contrôlent les institutions. C'est à peu près ça, et donc c'est ce type de clivage social-là qui est construit par la participation à ce type d'espace-là. Et ce qui est intéressant, je vais essayer de vous donner un petit peu des exemples des sessions d'éducation populaire qui conduisent à laisser des traces sur les participants. C'est quelque chose qui est souvent répété également, et qui là probablement contraste assez fortement avec les centres sociaux, c'est... une citation, moi je me rappelle d'une session d'éducation populaire, un peu des jeux qu'ils animaient avec les jeunes, les ados. C'était « Nous on veut que vous soyez le moins neutre possible ». Et donc ce qu'apprennent les travailleurs sociaux au travers du travail d'éducation populaire qui est le leur, c'est de quel côté du monde social ils se situent. Mais donc du coup, ce qui structure le travail d'éducation populaire qui est mené, c'est que le monde social est traversé par des clivages, des inégalités, de classe, de race, de genre, etc. Et que, que ce qui explique les difficultés et le quotidien des habitants des quartiers, ce sont ces clivages sociaux sédimentés dans le temps, dans l'histoire. Et donc, c'est de ça, se repérer dans cet univers-là que transmettent, au fond, les travailleurs. Alors, je vais essayer de donner un peu plus d'exemples en essayant d'évoquer 3 mécanismes dans les rapports qu'entretiennent les salariés, les travailleurs sociaux avec les usagers, les participants, qui permettent d'expliquer ce processus de politisation, conscientisation que certains ont pu connaître. Tout d'abord, premier élément, c'est prendre conscience du caractère partagé des problèmes vécus et donc des difficultés structurelles, des difficultés des habitants du ghetto. Comme le dit Juan, quand ils partagent leurs histoires, donc les autres participants, leurs expériences, je les compare aux miennes et je me dis qu'on n'est pas si différents. Et donc, il y a monté en généralité l'idée d'un truc un peu partagé. Mais une fois qu'on a établi le caractère partagé de l'expérience, il faut mettre des mots dessus. L'expliquer, essayer de comprendre pourquoi on vit ce que l'on vit. Alors évidemment, là, on essaye de demander, il y a plein de... Dans ces sessions d'éducation populaire, de discussion collective, on essaye, on demande aux jeunes, aux participants d'expliquer pourquoi ils vivent ce qu'ils vivent, à leur avis. Mais très clairement, l'apport des salariés, qu'on appelle les organisateurs, est tout à fait essentiel ici pour nourrir une lecture structurale, clivée, conflictuelle des difficultés, des problèmes rencontrés par ces jeunes qui relient au fonctionnement de la société américaine, au capitalisme, au racisme institutionnel, éventuellement. Et donc il y a quand même des bonnes réponses qui sont recherchées collectivement et qui sont en partie apportées, pas seulement, par les organisateurs. Par exemple, dans une des sessions d'éducation populaire que j'ai suivies, une salariée demande « Alors pourquoi nous vivons tous ces problèmes ?» Alors là, les réponses fusent, etc. Et là, une adolescente répond « Ah nous, voilà, on a tous ces problèmes-là parce qu'on est trop feignant. » Mauvaise réponse, ça jette un froid. Et alors là, on lui explique, en fait, gentiment, autant d'ailleurs les autres, ses camarades adolescents que les autres organisateurs, que non, en fait, elle se trompe, que c'est la faute du système. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas forcément dit grand-chose, mais on voit qu'il y a quand même des bonnes et des mauvaises réponses à « mais pourquoi vivons-nous tout ce que nous vivons ?» Et c'est toute la tension, en fait, qui traverse ces espaces d'éducation populaire, c'est comment apporter des éléments d'éclairage aux difficultés qui sont pointées du doigt par les participants, sans pour autant que ce soit trop descendant. À mon sens, la question n'est pas tant de savoir si les salariés doivent ou non apporter des éléments de compréhension extérieure à l'analyse extérieure, à l'analyse propre des participants. Moi, ça me semble légitime, mais comment on apporte ces éléments-là? Est-ce qu'on les déverse de façon très descendante, ou est-ce qu'on permet aux habitants de les découvrir par un processus d'enquête, de co-construction, etc. Voilà. Très clairement, moi, dans les organisations que j'ai suivies aux États-Unis, il y avait quelque chose d'un peu dérangeant, de très descendant, les bonnes réponses, comme je le disais, et pas très collectif et délibératif. Et une des difficultés, des tensions des organisations que j'ai suivies, c'est entre leur idéal d'émancipation des classes populaires, de conscientisation qu'elles incarnent, qui se heurte au souci d'efficacité, leur volonté d'obtenir des victoires ici et maintenant. Et donc, du coup, ça suppose d'aller parfois un peu vite dans la formation de la conscience des participants, dans la volonté de trouver collectivement les réponses aux problèmes et les solutions aux difficultés rencontrées, si bien qu'en fait il y a presque le mécanisme inverse de celui qui était pointé ce matin, où l'urgence dans laquelle les salariés des centres sociaux sont placés empêche d'avoir des débats sur pourquoi on vivrait tout ça. L'urgence à vouloir obtenir des victoires et à organiser et à passer tout de suite à l'action collective pour résoudre les problèmes, parfois fait qu'on va un peu trop vite peut-être dans le travail collectif de conscientisation. Toujours est-il que donc premier mécanisme, je vais essayer d'avancer un peu pour pas être trop long. Il me reste 5 minutes. Caractère partagé de l'expérience, valorisation des points de vue minoritaires et stigmatisés. Il y a un truc qui est très fort dans ces organisations-là aussi, c'est de renverser le stigmate que vivent les habitants de ces quartiers. Et troisième élément, et je finirai là-dessus, peut-être sur le côté états-unien, c'est quand même que tout ça n'a de sens que si c'est arrimé à une volonté de résoudre les problèmes qui ont été récoltés, de ne pas en rester là. Et c'est là une question qui a été posée ce matin. Qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Là, très clairement, eux, ils répondent à la question. Nous, on va essayer de résoudre les problèmes de logement, d'éducation, etc., qui ont été évoqués, et puis de formuler collectivement des propositions, et puis de les mettre en place. Et donc, il y a une valorisation très forte de l'action collective, et puis sa mise en pratique très, très concrète. Il n'y a pas l'idée qu'il faudrait d'abord se former et ensuite passer à l'action. Les deux se nourrissent mutuellement, se nourrissent à la fois par tout un travail aussi en rappelant, et ça c'est hyper fort, que la lutte paye. Ça c'est un truc qui est hyper fort, et il y a tout un travail sur l'histoire des avancées sociales aux États-Unis. Sur l'idée que le salaire minimum, l'égalité des droits des minorités, la réduction du temps de travail, etc., n'a jamais été le fruit du seul vote, mais de la mobilisation collective et de rapports de force par des syndicats, des associations, Et donc c'est comme ça que les choses changent. Donc là, très clairement, une fois de plus, bonne réponse. Et puis ensuite, en mettant en branle très concrètement des actions collectives, à l'image de celles que j'évoquais tout à l'heure, sur les pratiques disciplinaires dans les écoles, mais qui parfois ont des effets quand même assez significatifs, puisque ces organisations, ces associations de quartier, un peu à l'image de la Fédération des centres sociaux, sont ici également fédérées, pas tant à une échelle nationale parfois, mais là au moins à l'échelle californienne. Et moi j'ai pu suivre comme ça des campagnes qui ont été mises en place à l'échelle californienne par ces organisations, et qui ont eu des effets assez assez significatifs. Bon, un des trucs que j'avais étudié, c'est notamment une campagne en Californie, il y a beaucoup de référendums. C'est un des pays au monde, après la Suisse, qui a le plus recours au RIC, référendum d'initiative citoyenne, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Et donc, les organisations communautaires y ont beaucoup recours, en fait. Ils utilisent ça comme un débouché possible à leur campagne, à leurs propositions, leurs revendications. Et donc, un des problèmes, quand même, qu'ils ont, c'est de dire... Il n'y a pas assez d'argent qui est mis dans les écoles des quartiers pauvres. On n'a pas assez de profs, de psys, etc. Et l'argent va peut-être d'ailleurs un peu plus dans les prisons que dans les écoles. Donc ils ont fait une proposition de référendum pour augmenter les impôts, notamment les impôts sur le revenu des millionnaires. Cet argent pourrait potentiellement nourrir, financer l'école dans les quartiers pauvres. Et donc là, moi, j'ai suivi les gamins qui allaient faire du porte-à-porte pour dire aux gens dans les quartiers, il faut voter pour augmenter les impôts, machin, pour financer. Voilà. Bon, ça a été toute une bataille, un peu aux États-Unis, qui est un pays qui est très allergique à l'impôt. Tout le monde pensait que ça ne marcherait pas. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi dans les spots télévisés pour dire que ce serait dramatique pour la croissance californienne si on augmentait les impôts des contribuables les plus fortunés. Vous l'avez compris, au final, la campagne est passée, ce qui a permis de dégager 8 à 9 milliards de dollars annuels pour financer les services d'éducation dans les quartiers pauvres. Donc on voit que là, bon, l'action collective, comment on fait pour améliorer, nous, concrètement, dans nos quartiers à Los Angeles, les conditions d'éducation dans les écoles. Bon, bah voilà, là, ça a eu un débouché très, très, très concret. Et, voilà, ils ont eu... Voilà. Tout ça pour vous dire que moi, un des enseignements que je tire de mes enquêtes aux États-Unis, c'est que cette politisation, ce travail de conscientisation requiert un travail de politisation, un travail émancipatoire. Il n'y a pas de spontanéité ou d'automaticité de l'émancipation qui naîtrait un peu comme par magie à la participation à des expérimentations de développement du pouvoir d'agir, s'il n'y a pas une intention explicite d'effectuer ce travail émancipatoire qui peut supposer une forme d'asymétrie entre les salariés et les usagers, les participants, les habitants. Et donc, il y a toujours une tension, en fait, hein, qui traverse le pouvoir d'agir et l'émancipation. Et après, on peut tomber du bon ou du mauvais côté, tomber du côté de la manipulation, tomber à l'inverse du côté de la dépolitisation. Et c'est cette tension, je pense, qui rend les choses intéressantes. Mais voilà, il faut, je pense, assumer le travail explicite de politisation, ce qui suppose également d'avoir une réflexion, et je conclurai par ça en évoquant un petit peu ce que j'ai pu faire avec les centres sociaux dans le Nord, de savoir où on va. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir un travail émancipatoire, d'avoir un travail de politisation, si on ne se pose pas un peu plus clairement la question de quels sont les clivages qui structurent la société, quelle est l'origine des problèmes que nous rencontrons. Alors peut-être dernier point, s'il me reste encore 2 minutes, donc moi j'ai eu la chance, l'occasion de collaborer donc avec des centres sociaux dans le Nord qui voulaient faire un travail aussi autour du développement du pouvoir d'agir, et on a orienté assez rapidement le truc sur comment de réfléchir au fond sur la façon dont les centres sociaux pouvaient devenir des vecteurs de mobilisation des habitants dans les territoires où ils intervenaient, en fait avec l'idée que développer le pouvoir d'agir des habitants requérait de dépasser une logique de service à la population, et que voilà, que les centres sociaux devaient être des vecteurs de résolution des problèmes et devaient sortir du centre. Il y avait quand même ce truc, un peu une sorte de constat de départ, que des fois les centres sociaux étaient un peu trop refermés sur eux-mêmes, sur l'espace du centre, etc. Il y a le terme de bunker qui revenait beaucoup, et donc il fallait sortir du centre social. Alors c'est le truc un peu qui est ressorti au départ de la commande, et que donc il fallait aller faire du aller vers. Et donc faire du pouvoir d'agir, c'était faire du aller vers pour aller rencontrer les habitants du quartier. Et puis moi, je soutenais ça en disant la force de ceux qui n'ont rien, c'est le nombre. Vous êtes beaucoup dans le centre social, mais il faut être encore plus nombreux pour légitimer ce qui en ressortira. D'où la question qui s'est posée ensuite sur aller vers pour quoi faire. Et on retombe donc sur cette question du centre. Alors de ce travail, il y a 4 éléments qui sont ressortis. Dans ce qui a été mis concrètement en œuvre par les centres sociaux, c'était aller vers pour produire du savoir, pour recueillir des connaissances sur le territoire, le quartier, des problèmes, etc., via des questionnaires, du porte-à-porte, des diagnostics. Savoir qui peut être une source de légitimité, de solution, qui peuvent potentiellement déboucher sur une amélioration des politiques publiques, mais se pose quand même la question du débouché. Aller vers pour créer du lien social. On va chercher à créer du lien avec des habitants qui ne sont pas présents dans le centre social. Alors ça passe plutôt par des fêtes de quartier, des animations, etc. On va faire des cafés voisins. Voilà. Aller vers pour faire grossir le centre social. Alors ça, c'était quand même un truc, il y avait quand même cette... Alors c'est pas forcément formulé comme ça, c'est moi qui reformule, mais ce truc que ça permettait au centre social d'être bien évalué et noté derrière, parce qu'il y avait plus de monde dans ces actions. Et quatrième truc, c'était aller vers pour faire du collectif, faire nombre pour peser. Alors là, c'était un peu dans l'ordre du projet, pour le coup. Ça n'a pas beaucoup débouché, à part une des actions qui avait été identifiée. C'était quand même une mobilisation à l'échelle départementale, justement, vis-à-vis du conseil départemental qui coupait des subventions qui étaient prévues. Alors, la réflexion qui a été menée, c'est que toutes ces façons de faire du aller vers, et les raisons de le faire, ne produisent pas forcément la même type, ou même pas du tout, de pouvoir d'agir. Il y a au moins deux difficultés, je finirai là-dessus, qui se sont dégagées de tension de ce travail-là, et qui recoupent complètement, en fait, hein, ce qui s'est dit ce matin, donc ça ne va pas être très, très original, ça va peut-être confirmer, en fait, et peut-être spécifier ce qui se passe dans la région centre. C'est la tension lien social versus conflictualité. Et là, il y a quand même quelque chose de très fort qui s'opposait. D'un côté, certains avançaient que... Et donc, ce qui pose la question du sens, et c'est des débats, à mon avis, qui méritent d'être approfondis, considéraient qu'il y a trop de conflictualité dans la société, trop de tensions dans les quartiers populaires, et que le rôle des travailleurs sociaux, c'est d'apaiser ces tensions. J'ai fini. En favorisant le lien social. Et d'autres, à l'inverse, qui considèrent que le rôle des centres sociaux et des travailleurs sociaux, c'est plutôt de... dépasser la conflictualité en transformant la conflictualité horizontale entre les habitants en conflictualité verticale des habitants vers les institutions et se faisant les politiser. Deuxième tension, c'est la dépendance aux institutions. Moi, souvent, voilà, et c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans ma remarque, hein, mais c'est, on me disait, vous êtes bien gentil avec vos histoires de pouvoir d'agir, etc., mais nous, on est financés par la CAF, le département, la ville, on ne peut pas se permettre d'aller au clash, etc., sinon on met la clé sous la porte. Alors moi je pense qu'effectivement, je pense que ce qui a été dit ce matin est tout à fait juste, en fait qu'il y a quand même néanmoins des marges de manœuvre, je pense qu'il y a beaucoup d'expériences qui le montrent, mais je pense qu'il y a au moins des réflexions à mener sur au moins à trois niveaux, et je finirai vraiment là-dessus, sur le modèle économique des centres sociaux, et moi je pense quand même que c'est très difficile d'avoir des démarches de développement du pouvoir d'agir sans autonomie financière. Et qu'il faut y aller, quoi. Et donc il faut réussir à baisser la part des financements institutionnels dans le financement des centres sociaux. Que deuxièmement, il y a un travail, une réflexion à mener auprès des institutions, d'acculturation des institutions à ces logiques-là. Les premiers qui doivent être formés au pouvoir d'agir, ce sont les élus et les institutions, pas les habitants. Et que pour l'instant, on n'est pas du tout là-dessus. Et il faut changer les cibles, au fond. Hein, et c'est les institutions qui doivent être formées au pouvoir d'agir, qui ont quand même, moi, me semble-t-il, une culture de contrôle social très fort, qui pèse sur les travailleurs sociaux et qui bien souvent entrave des dynamiques, qui est à mon avis tout à fait court-termiste et qui est à mon avis une mauvaise option. En fait. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on a tous à gagner à développer le pouvoir d'agir des habitants. On a tous à gagner à développer des formes de conflictualité, y compris verticales. C'est-à-dire que, y compris les institutions, ont intérêt à s'en prendre plus dans la gueule, parce que sinon, en fait, ça va se passer autrement, quoi. Et ça se passe déjà autrement. Sauf que, en fait, à court terme, elles n'ont pas grand-chose à y gagner. Et donc, il y a peut-être une contradiction entre les cycles électoraux et le développement à moyen terme du pouvoir d'agir. Et troisième niveau, il y a quand même une réflexion à mener, on l'a évoqué aussi ce matin, sur la culture professionnelle dans les centres sociaux, la question de l'autocensure et de la peur du conflit. Néanmoins, moi, c'était un peu le sens de mon intervention, c'est qu'on ne peut pas détacher le deuxième du troisième point. C'est-à-dire que la culture d'évitement du conflit chez les travailleurs sociaux, ce problème de l'autocensure, est principalement lié au fonctionnement institutionnel, à l'enracinement institutionnel des centres sociaux, et que ce n'est pas deux trucs qui sont complètement séparés, etc. Et donc, à mon avis, l'enjeu cardinal, etc., c'est au niveau des relations avec les pouvoirs publics et les institutions. Voilà, merci.